winds 100 points out to the west.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Oh my God, dude.
Radio X.
Et c'est parti officiellement pour la dernière émission de la semaine. Bon jeudi, jour de paye pour certaines personnes. C'était le cas ici à Radio X, donc tout le monde est de bonne humeur dans la station. Salut Christian, bon début de soirée, comment vas-tu?
Ben ça va très bien Camille. Écoute, ce soir, c'est notre soirée tueur en série, tueur
occulte. C'est ma préférée.
Donc on va se faire un petit plaisir ce soir.
Exactement, et ce soir tu nous parles d'un que je ne connaissais pas encore. Et quand j'ai vu des photos de lui sur internet, je me suis dit mon Dieu, il est donc bien pâle, mais ça a un lien avec un peu son objectif premier, Alan Menzies.
Oui, Alan Menzies, c'est une histoire, écoute, c'est une histoire que j'ai racontée dans mon livre Les tueurs de l'occulte. Je lui ai également consacré une émission complète dans les deux séries que j'ai fait à Canal D, là, Les tueurs de l'occulte. Et donc, c'est une histoire que je connais bien. Et comme toutes les histoires qui sont présentées dans mon livre Les tueurs de l'occulte ou qui ont fait l'objet de reportages dans mes séries Tueurs de l'occulte, ce sont des histoires dont j'ai rencontré les témoins, les policiers, je suis allé sur place, j'ai eu accès au dossier criminel, j'ai pu voir le dossier de l'accusation du procureur. Donc c'est des histoires que je connais bien, que je maîtrise bien parce que d'une certaine façon, je me suis immergé dans ces histoires-là. Et donc l'histoire que je vais te présenter ce soir est assez particulière. Elle relève de l'univers des vampires et c'est l'histoire donc d'Alan Menzies et ça on va la raconter en deuxième partie de l'émission. Il y a un crime assez épouvantable, comme tu vas le voir. Et maintenant, on garde ça pour les auditeurs en deuxième partie d'émission. Et on le dit tout de suite, c'est l'émission du jeudi. Donc, âme sensible, s'abstenir.
Oh oui.
Parce que bon, il y a certaines descriptions qui peuvent en choquer quelques-uns. Tu sais que notre fascination pour les tueurs en série, les tueurs de l'occulte, je me suis posé cette question-là parce que ça m'intéresse depuis l'adolescence. Et quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser de manière très soutenue à ces sujets-là, commencer à faire des reportages, à écrire là-dessus. Et bon, évidemment, j'ai rencontré des psychologues, des psychiatres, des policiers. La question que je voulais savoir, c'est pourquoi est-ce qu'on a une telle fascination pour, de façon générale, les tueurs en série?
Ouais, qu'est-ce que ça dit sur nous?
Qu'est-ce que ça dit sur nous? Et en fait, ça dit qu'on est sain de corps et d'esprit. C'est ça que ça nous dit, dans le fond.
Ah.
Parce que, pourquoi il y a une espèce de fascination, il y a cette fascination pour les tueurs de l'occulte ou encore les tueurs en série. C'est parce qu'on est incapable de se mettre dans les chaussures de l'assassin. C'est-à-dire que si tu lis dans la presse une histoire d'un crime qui a été commis pour de l'argent, pour la vengeance, sous l'effet de la colère ou la jalousie, on est tous capables de se substituer à l'assassin. Ça ne veut pas dire que placé dans les mêmes conditions, on aurait agi avec la même violence.
Non.
Mais ce sont des sentiments qui nous sont familiers. On sait ce que c'est que la jalousie, on sait ce que c'est que la colère, on sait ce que c'est la volonté de vengeance. Ce sont tous des sentiments à travers lesquels on est passé. Donc, bien sûr, tu prends ton copain ou ta copine avec un autre, bien évidemment, dans le moment de colère, t'as presque envie de les tuer. Donc, sans nécessairement passer à l'acte, mais on comprend quelle est la frustration, quelle est la colère qu'engendrent ces sentiments négatifs. Donc, quand on lit dans le journal, un type a assassiné, une femme a assassiné son mari parce que, elle le prit dans les bras d'une autre, sans dire, encore une fois, là, j'insiste, ça veut pas dire que nous, on agirait avec autant de violence si on se retrouvait dans la même situation, mais ce sont des sentiments qui nous sont familiers et on est capable de comprendre ça. Mais en revanche, si on lit une histoire où un tueur a décapité ses victimes, en a mangé des morceaux, puis tout ça dans le cadre d'une espèce de rituel plus ou moins occulte.
La pulsion sexuelle, tu sais,
ouais,
tout
voilà,
ça.
Oui, voilà. Là, écoute, là, il y a une impulsion sexuelle. À la rigueur, un crime à caractère sexuel, on peut comprendre l'impulsion ou l'envie sexuelle, mais de là à décapiter le corps, manger des parties du cadavre, conserver des organes dans des bocaux, là, on est vraiment sur une autre planète. Quelque part, on a été largué. On est incapable de se mettre dans la position du tueur. On ne peut pas comprendre la motivation. C'est trop out of this world. Hein, c'est trop vraiment étranger à nos propres comportements. Et c'est ce qui nous fascine par rapport aux tueurs en série ou aux tueurs de l'occulte, parce qu'on est incapable de comprendre ce qui les motive. Et c'est cette incompréhension qui suscite notre intérêt et notre fascination pour ces criminels. Donc, ça nous rassure.
C'est rassurant.
Moi, je suis capable de me mettre dans les bottines de Jeffrey Dahmer. Je t'inviterai pas à mon prochain party.
Mais non, c'est ça. Et surtout que c'est enregistré, Christian, ce qu'on fait, je n'oserais jamais.
Non.
Mais en réalité, ce n'est pas par fanatisme. C'est au contraire, d'un point de vue quasi empathique. C'est ça qu'on va essayer.
Oui.
C'est la plus grande question, le pourquoi. Pourquoi on s'en est rendu là? Qu'est-ce qui a poussé à quoi pensait-il? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Plutôt que de dire, hey, moi, je vais prendre cet homme comme modèle.
Et tu auras toujours un peu des illuminés comme ça. Là, je veux dire, combien de fois, durant des procès, des tueurs ont il y a une histoire à un moment donné qu'on va parler qui est les vampires de Bochum, et qu'une histoire qui est tout à fait fascinante, mais à un moment donné, durant le procès, l'un des tueurs dit « Je voulais être aussi célèbre que Charles Manson. »
C'est ça.
Donc, on comprend qu'il y aura toujours des gens un peu déjantés qui vont s'identifier à ces grands assassins. Combien de fois, une autre histoire, je me rappelle avoir couvert un moment donné où l'assassin, ça a fait l'objet d'un reportage dans Les Tueurs de l'Occulte, où l'assassin a mangé des morceaux du cadavre. Et quand je parlais avec son avocat me dit, à un moment donné, durant le procès, il a dit qu'il voulait ressembler à Jack l'Éventreur. C'est quand même curieux parce que Jack l'Éventreur, on ne lui connaît, ouais, on ne connaît pas non plus. Jack l'Éventreur, on lui connaît pas ouvertement des actions de cannibalisme, même s'il le dit dans une lettre. Hein. L'Éventreur, à un moment donné, envoie une lettre. Et avec cette lettre, je fais un petit aparté, la lettre accompagne une petite boîte. La personne à qui la boîte est adressée est un type qui s'appelle George Loss, qui dirige une espèce. Il est un peu le leader d'une milice locale qui s'est développée dans les rues de Whitechapel. Et lorsqu'il ouvre la boîte, la moitié d'un rein, en fait, dans la boîte. Et la lettre d'accompagnement dit « Cher Monsieur Losk », parce qu'il faut dire que Monsieur Losk se vante à tous les journaux londoniens que là où la police a échoué à attraper Jack l'Éventreur, lui et ses hommes, la nuit qui arpente les rues de Whitechapel avec des gourdins, vont bien sûr mettre la main sur l'assassin. Alors, comme les propos de George Loss qui sont publiés dans toute la presse londonienne, il reçoit ce petit paquet avec une lettre d'accompagnement, et la lettre dit « Cher Monsieur Loss, vous trouverez ci-joint la moitié d'un rein que j'ai prélevé sur ma dernière victime. L'autre moitié, je l'ai fait frire et je l'ai mangé.
Bon.
C'était délicieux. Si vous pouvez attendre un peu, peut-être vous enverrai-je le couteau avec lequel je l'ai prélevé. Attrapez-moi si vous le pouvez. » Monsieur Losk. C'est une lettre qui est quand même terrible.
Ben oui.
Est-ce que Jack l'Éventreur a réellement mangé l'autre moitié du rein? On ne le sait pas, mais bref, dans l'histoire dont je te parle, c'est l'avocat de l'accusé disait, ben, c'est ça, à un moment donné, en fait, l'accusé, c'était deux femmes qui ont tué des hommes, puis ils leur prenaient des organes, puis à un moment donné, c'est ça, elle dit, je voulais ressembler à Jack l'Éventreur. Bon, ben OK, parfait. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens un peu déraillés, déjantés, qui vont s'identifier à ces assassins, vont commettre des gestes en essayant de reproduire parfois ce qu'on appelle des copycat crimes. Hein. Ils vont essayer de reproduire des gestes ou des crimes qui ont été commis par des tueurs célèbres. Mais heureusement, c'est une très, très faible minorité. Oui, heureusement pour nous. Dans l'ensemble, si on voit dans les livres, dans les librairies, les bibliothèques, autant de livres concernant des true crimes, des crimes véritables, et pourquoi il y a un engouement pour ça, ben heureusement pour 99,999%, c'est notre volonté d'essayer de comprendre quelle a été la dynamique intellectuelle qui ont amené ces criminels à commettre ces gestes tout à fait épouvantables, parce que pour nous, la fascination, c'est de ne pas pouvoir se substituer à eux dans la pensée et bien sûr dans les sentiments et les comportements.
Plus que jamais, c'est de plus en plus populaire et on consacre une émission complète là-dessus à chaque semaine. On en reparle en deuxième partie, mais d'abord, j'hésite entre possession meurtrière ou pédophile assassin. Et sur ces Je te laisse choisir, Christian.
Écoute, je vais commencer avec la possession meurtrière. Parfait. C'est une histoire que j'ai trouvée assez intéressante. Écoute, ça se passe dans un tribunal de Leed, dans le West Yorkshire, en Angleterre. D'ailleurs, le Yorkshire qui est célèbre pour un célèbre assassin dans les années 70 qu'on appelait l'éventreur du Yorkshire. Mais là, ici, on est dans le West Yorkshire. Ça se passe au tribunal de Leed. Et là, il y a un certain Mike Barrett, il y a quelques jours, hein, un homme de 55 ans qui a été condamné à la prison à vie et assorti d'une peine de sûreté de 21 ans pour avoir assassiné sa femme, qui est une infirmière de 50 ans, qui était tout à fait appréciée à l'hôpital de St. James à Leeds, là où elle travaillait. Et donc, le meurtre s'est produit le 15 août 2021, donc il y a pratiquement un an, jour pour jour, au domicile des Barrett. Bon, et l'histoire est quand même, tu vas comprendre que l'histoire prend une étrange tournure. D'abord, ce Mike Barrett, tous les gens qui sont venus à la barre l'ont tous décrit comme un homme hyper contrôlant qui souffrait de troubles de limite de la personnalité. Il était notamment persuadé que sa femme était possédée par un ou plusieurs démons. Donc, il répétait ça à plein de gens et il suivait sa femme. Évidemment, il était convaincu que sa femme commettait l'adultère. Il la suivait partout, vérifiait son téléphone. Et les gens, même les enfants de Barrett, vont raconter que même à la maison, il devait vraiment se tenir à carreau. Il pouvait à peu près rien faire sans demander l'autorisation. Puis on parle d'enfants adultes, hein?
Ah, ouais.
Les deux enfants de Barrett, ce sont des jeunes qui ont au début de la vingtaine. Ils racontent que d'ailleurs, ils ne vivaient plus à la maison. Oui, c'est vrai, le garçon vivait encore à la maison, la fille avait quitté. Mais quand le père était là, c'était vraiment un climat excessivement difficile. C'est un homme hyper contrôlant. Et le meurtre, donc là, on raconte de quelles les circonstances du meurtre. Ça se passe le matin du 15 août 2021. Hélène Barrett, donc l'épouse, a signifié à son mari quelques jours plus tôt qu'elle avait l'intention de le quitter. Barrett va raconter à la cour qu'il était assez d'accord avec cette décision. Lui et sa femme ne s'entendaient plus. Leur relation était tout à fait empoisonnée. Il dit, bon, à ce moment-là, j'ai pas de problème. Et ce jour-là, c'est le jour où Hélène Barrett décide de quitter. Donc, elle est dans la chambre principale. Elle est à faire ses cartons. Elle met ses vêtements, tout ça, dans des boîtes et des sacs. Lui, Barrett, dit, à ce moment-là, tout se passe très, très bien. C'est la dynamique entre nous deux est parfaite. Mais il décide, comme ça, au moment où tu dis, c'est un peu étrange, là, ta femme est en train de faire ses boîtes, c'est mal. Lui, il décide qu'il va aller au sous-sol chercher un marteau pour réparer les charnières de la porte qui grincent. Mmh. Bon, tu dis, drôle de moment de faire ça quand même, mais bon. Donc, Barrett dit, et là, je te écoute, c'est les minutes du procès, là. Il dit, bon, je suis descendu au sous-sol, j'ai pris un marteau, je suis remonté dans la chambre des maîtres. Hélène était là, elle faisait ses mâles. J'ai commencé à démonter une des charnières de la porte, et à ce moment-là, il dit qu'il a eu une sensation, il a senti la présence des démons qui possédait sa femme. Alors il s'est précipité sur elle puis lui a asséné un coup de marteau. Donc Hélène s'est poussée, elle s'est retournée évidemment, la main sur le crâne, hein, le cuir chevelu déchiré, elle saignait abondamment. Et là, avant qu'elle ait le temps de réagir, Barrett lui a donné un second coup de marteau. Elle s'est là, évidemment, elle a compris que sa vie était en danger. Elle s'est précipitée sur son mari. Il s'en est suivi une bataille. Lui a échappé le marteau et l'a empoigné sa femme à la gorge et finalement, il l'a étranglée. Mmh. Après ça, et là, tu dis, ouais, t'es un petit peu étrange. Un coup qu'il l'a eu étranglée, il a descendu sa femme dans la salle de séjour. Et là, il a décidé de quitter les lieux. Son intention, il va dire devant le tribunal qu'il avait l'intention d'aller dans un monastère dans le nord de l'Écosse, à Elgin, où éventuellement il avait l'intention de mettre fin à ses jours. Donc, il prend la voiture, quitte, roule en direction du nord de l'Écosse. Il envoie un texto à son thérapeute parce qu'il était suivi pour des problèmes de comportement, c'est-à-dire ses problèmes limites de la personnalité.
Oui.
Et il écrit donc à son thérapeute qui se trouve aussi à être son voisin. Donc, il écrit au thérapeute en disant qu'il vient de battre sa femme, mais il dit qu'il croit qu'elle est encore vivante. Néanmoins, le thérapeute contacte le fils de M. Barrett qui se rend sur place et malheureusement, il découvre le corps de sa mère ensanglanté dans la salle de séjour et bien sûr, elle est morte. Donc, Barrett, lui, continue son chemin, se rend au fameux monastère à Elgin où il va s'inscrire sous un faux nom, le nom de John Connelly. Il demande aux moines du monastère de pouvoir être admis pour une retraite. Et c'est là, donc, 4 jours plus tard, que les policiers vont aller le cueillir. Il n'oppose pas de résistance à son arrestation. Et puis, il est ramené, donc, dans le West Yorkshire, où il subit son procès. Et donc, il va raconter toute cette histoire-là. Il plaide, bien sûr, il reconnaît avoir agressé sa femme, mais bien sûr, plaide la possession. Il dit, ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'étais dans un momentanément inapte, parce que il y avait la présence des démons qui ont embrouillé un peu ma pensée. Mais il va prétendre durant le procès qu'il était persuadé que en frappant sa femme de cette manière, il était pour la libérer des démons. Ça n'a pas beaucoup impressionné le juge qui, comme je l'ai mentionné, l'a condamné à la prison à perpétuité avec une période de sûreté de 21 ans.
J'ai ma théorie, moi, sur les petits démons. Hein. On a un petit ange à gauche, un petit démon à droite, puis le petit démon, il s'appelait Mike, puis il a parlé à Mike, puis il a dit, ouais, là, c'est parce que si tu laisses ta femme partir, ben, elle va rencontrer quelqu'un d'autre, là.
Oui, c'est ça. Donc,
c'est ça qui arrive, c'est un drame conjugal, carrément.
Effectivement. Donc, l'histoire du démon puis de la possession, bon, on le voit, c'est une tentative pour diminuer sa culpabilité dans
exact.
Un geste qui est, somme toute, simplement de la violence conjugale. Et d'ailleurs, c'est pourquoi aussi, quand les enfants de Barrett sont venus témoigner au tribunal, ils ont bien raconté que démon, pas démon, le climat à la maison était excessivement malsain, que l'homme était contrôlant, il était violent envers eux, envers leur mère. Donc, ils ont été attristés par le décès de leur mère, on le comprend bien, mais le fils de Barrett a dit « J'ai été attristé, mais j'ai pas été autrement surpris de voir que cette agression-là avait dégénéré de cette manière-là. » D'ailleurs, lorsque la mère a annoncé à ses enfants, lorsqu'Hélène Barrett a dit à ses enfants qu'elle avait l'intention de quitter son mari, donc leur père, les enfants ont été très inquiets. Hein?
Ils ont été allumés,
ils ont questionné leur mère, ils ont dit, oui, mais comment il va réagir? Et finalement, la mère a dit, ben, je lui ai parlé, il semble avoir bien pris ça, tout ça. Mais bon, visiblement, M. Barrett jouait la comédie, mais le jour du départ de son épouse, n'a pas pu résister à sa colère qui grondait en lui, même si éventuellement il a attribué ça à des démons.
OK, mais le titre est tellement trash, on ne peut pas ne pas en parler. Pédophile, assassin et sorcellerie, qu'est-ce que c'est ça cette histoire-là?
Oh, nos amis anglais vont nous aimer.
Oh. Ah, ben, toutes les choses bizarres se passent souvent en Angleterre.
Donc là, ici, on est au tribunal de Glasgow. On est en Écosse.
En Écosse,
et puis, il y a 11 personnes, donc il y a quelques jours, qui ont comparu devant le tribunal. Ils sont en attente d'un procès. Ils sont accusés d'avoir participé à un réseau sexuel qui impliquait des enfants, mais qui impliquait également de la sorcellerie, de la grave violence, et de la négligence.
Oh. Bon,
quand on lit les minutes des accusations, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que les 11 suspects ont amené le garçon et la fille plus âgée à participer. En fait, il y avait 2 filles, mais ils ont utilisé la fille la plus âgée. Mais en fait, entendons-nous, plus âgée, c'est une de 6 ans et une autre de 9 ans.
Ah.
Donc, la fillette la plus âgée a utilisé une planche Ouija à faire appel à des esprits et également s'adonner à des actes sexuels, les obliger à commettre des actes sexuels. Et tout ça, évidemment, en faisant croire aux enfants qu'ils étaient comme sous l'effet d'un mauvais sort et que s'ils n'agissaient pas en fonction des commandes du groupe, ils allaient se métamorphoser en animaux. Bon, le groupe est composé en question de 7 hommes, 4 femmes, durant les cérémonies où ils se sont adonnés à de la sorcellerie, mais également à des gestes dégradants sur les enfants ont raconté au tribunal que les membres du groupe portaient des capes, portaient également des cornes du diable, et le petit garçon a raconté qu'il avait même, à un moment donné, été forcé de poignarder un perroquet et une perruche, en fait, et à boire son sang.
Ah, voyons
donc. tu lis des trucs comme ça, il y a vraiment des gens qui sont complètement déjantés. Donc, je te passe la liste des suspects, des accusés. En fait, bon, ce sont en gros des suspects puisque ils n'ont pas toujours eu un procès. Donc, ils sont pour l'instant accusés, mais pas coupables. Donc, ce sont des gens qui sont âgés à peu près 36, 37 ans, jusqu'au début de la cinquantaine.
OK, mais ça me renverse, Christian Parentage. J'aurais pensé beaucoup plus vieux, des gens qui ont zéro suivi la modernité, là.
Moi, non, c'est ça. Il y a 43 chefs d'accusation qui ont été portés et tout ça se tient dans un tribunal, le tribunal de la Cour supérieure de Glasgow. Et donc, toutes les personnes sont actuellement... Pour des raisons, là, tu comprends, de censure, je raconterai pas les actes sexuels qui ont été commis contre les enfants. Je pense que c'est pas utile, on peut très bien l'imaginer. Mais ça, il faut savoir que tous les accusés, donc ce petit groupe, qui se faisait en fait, parce que c'est souvent ça lorsque l'on parle de crimes occultes, on fera à un moment donné une émission là-dessus, parce qu'il y a un événement qui a marqué l'histoire de l'occultisme au 20e siècle, et en particulier du satanisme, qu'on a appelé la peur satanique. Et la peur satanique, sans entrer dans les détails, elle s'est développée dans les années 80 jusqu'au milieu des années 90. Et c'était de croire que les satanistes étaient, et ça s'est développé surtout aux États-Unis, mais c'était de croire que les satanistes étaient partout, et ils formaient une espèce de réseau excessivement tentaculaire, mais ayant des liens entre eux. Alors que les enquêtes ont démontré que tout ça était de la foutaise. Généralement, lorsque l'on parle de satanisme de cette façon-là, il faut savoir, et là, bien que notre histoire ici se passe en Écosse, il faut savoir que si on regarde du côté des États-Unis, il n'y a que deux églises sataniques qui ont pignon sur rue, et l'une d'entre elles est l'église de Satan, et l'autre s'appelle le temple de Seth. Et dans les deux cas, lorsqu'il y a eu enquête sur ces deux organisations par le FBI, on n'a pas trouvé dans ces églises-là des gestes qui étaient criminels. Ce sont des, je te dirais que les satanistes qui appartiennent à ces deux églises sataniques américaines, ce sont plutôt des gens qui sont dans le genre « faisons ce qu'on a envie de faire au-delà de toute forme de moralité ». Mettant aussi longtemps que c'est admis par la loi, là. Tu sais, donc, pas d'agression sur des enfants ou des trucs comme ça, mais on aime bien se réunir, puis ça fait des gros gangbangs, puis tout ça. Donc, tu vois, on est plutôt contre la moralité judéo-chrétienne, sans pour autant commettre des gestes criminels. Donc, ce que a démontré l'enquête du FBI, puis je veux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est vrai aux États-Unis, puis c'est vrai que des enquêtes menées, notamment par Scotland Yard en Angleterre, ont démontré à peu près la même chose. Les gens, et on le voit avec ce petit groupement-là, les gens se font une espèce d'occultisme de salon. C'est-à-dire qu'ils se réunissent, vont lire des livres sur l'occultisme, vont s'imaginer des rituels qui sont pas fondamentalement des rituels qui sont partagés par d'autres groupements. Donc, chaque groupe a ses propres rituels, ses propres croyances, ses propres rites initiatiques. Donc, on a vraiment un satanisme qui est fragmentaire et qui n'est pas constitué d'une grande église ou d'un grand concept généraliste. Donc, c'est 3-4 personnes, ils se réunissent, se font leurs règles, leurs patentes et agissent en fonction de ça. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc, ces 11 personnes-là, il n'existe pas une espèce de livre qui contient tous les rituels sataniques qui est partagé par tous les satanistes de la planète, comme on a la Bible judéo-chrétienne. Donc, que tu assistes à une messe à Québec, que tu assistes à une messe à Montréal ou que tu assistes à une messe en France, on fait toujours référence aux mêmes textes religieux et les cérémonies écuméniques sont à peu près toutes pareilles. Mais dans le satanisme, c'est pas ça. C'est vraiment partagé, c'est des petits groupes qui partagent des idéologies différentes les uns les autres, même si pour la plupart, il y a une espèce de figure, une divinité diabolique qui se trouve au centre de ça. Donc, c'est très partagé. Hein. Le satanisme est une organisation excessivement morcelée et on le voit avec ces pédophiles satanistes. Ils s'étaient fait leurs propres règles, leurs propres gestes et tout ça, malheureusement, impliquant des enfants et espérons que ces gens-là auront à faire face aux conséquences de leurs gestes. Parce que c'est toujours un peu épouvantable de lire des trucs comme ceux-là. Et malheureusement, Là, ici, ça se fait dans un milieu occulte ou satanique, mais malheureusement, des crimes contre les enfants, on en a beaucoup trop.
Et heureusement, dans ce cas-ci, on est au courant et c'est devant la justice parce que bon nombre, si on veut être vraiment négatif jusqu'à la fin, là, bon nombre demeure sous silence. Ouais. Alors celui-là, au moins, il est devant les tribunaux. Ouais.
Il faut savoir aussi, Camille, que il y a probablement plein de gens qui nous écoutent puis ils vont se dire « Ah oui, les satanistes, souvent, c'est des pédophiles ou sont associés à la pédophilie. » Puis on l'a vu avec le groupement QAnon qui s'est développé aux États-Unis là durant sous l'administration de Donald Trump, cette espèce de mouvement un peu complotiste. Puis ils disent « Ah oui, il existe, Washington est noyauté par un pouvoir qui est contrôlé par les démocrates, puis ce sont des pédophiles satanistes. » On aime beaucoup associer les pédophiles et le satanisme. Pour deux raisons. Moi, quand j'ai enquêté sur ces crimes-là, et comme c'est un sujet qui me passionne depuis pratiquement 40 ans, je peux te dire que j'en connais un rayon là-dessus. Là.
Ben oui.
Et il faut savoir que, notamment aux États-Unis, quand tu veux diaboliser ton ennemi, aux États-Unis, on partage énormément de valeurs chrétienne. On a beaucoup de protestants, beaucoup de catholiques aux États-Unis, mais les deux, en fait, reposent sur le christianisme. C'est deux doctrines du christianisme. Donc, ce qu'on retrouve là-dedans, c'est souvent, si tu veux diaboliser quelqu'un, tu dis c'est un sataniste. Là, écoute, il est rendu pas mal méchant. Tu sais, lui, c'est un sataniste. Et le mot a souvent été utilisé dans l'histoire pour discréditer ou diaboliser des ennemis. On a accusé notamment les Templiers. Les Templiers sont pas bons parce qu'ils font du satanisme. On disait ça dès le 13e siècle. Donc, tu veux diaboliser un ennemi, tu l'associes au satanisme. C'est un sataniste. Et dans la société occidentale, on a une valeur qui est intrinsèque à toutes les sociétés occidentales, c'est la protection des enfants. Donc, si tu dis, c'est un sataniste, pédophile. Ah là, écoute, tu peux pas aller plus bas que ça, là. Là, t'es le fond du baril. Tu viens de dire que ton ennemi, c'est un sataniste. Et là, il est déjà rendu méchant en tabarnouche. Puis là, tu dis en plus que c'est un pédophile. Ah là, t'es dans le fond
Terminé.
Du tonneau.
C'est ça.
Tu peux pas aller plus loin. C'est le fond du tonneau. Mais dans les faits, il y a très peu de crimes pédophiles qui sont associés aux satanistes. Même les gens, là, éliminons nos deux églises sataniques que j'ai mentionnées, là, le temple de Seth et l'église de Satan, parce que ces gens-là, ce sont des gens qui sont plutôt sur le party et qui font pas vraiment de crimes.
C'est ce qu'on du mal, c'est entre eux.
Ouais, c'est ça.
Autrement.
Donc, oublions ces deux églises-là. Mais si on regarde, c'est vrai qu'à travers les États-Unis, l'enquête du FBI, et c'est vrai aussi en Angleterre, puis c'est vrai en France, il existe des petits groupes de gens qui se réunissent puis ils font du satanisme. Bon, ils ont le droit de religion partout, là. Tu sais, t'as le droit d'adorer Jésus, Dieu, Bouddha, Mahomet, qui tu voudras, puis si tu veux adorer Satan, ben, adore Satan, tu sais. C'est ton problème à toi. Et ces gens-là, heureusement, les gens qui se livrent à la culture du satanisme, aux croyances sataniques, commettent rarement des gestes aussi répréhensibles que ça. Mais on aime bien les diaboliser en disant « Ah ouais, c'est des criminels, puis ils font du satanisme. » Dans la réalité, je me rappelle combien de fois j'ai vu des gens dire « Ah oui, les satanistes, ils utilisent des enfants pour faire des films de pornographie infantile qu'ils revendent ensuite sur le marché. » Ça, là, c'est complètement ridicule d'imaginer ça. Pour la simple et bonne raison que si tu veux faire des films pour faire de l'argent, tu vas aller vers là où est le marché. Or, qui regarde des films de pédophilie infantile?
Non.
Très peu de gens. On regarde pas ça. C'est une minorité de la population qui vont s'exciter à regarder des trucs comme ça. Qu'est-ce qui marche bien? Tu veux faire de l'argent? Ben, tu vas prendre quelque chose qui marche bien. Ben, ce qui marche bien, c'est de la pornographie adulte. Ça, on a une grande consommation de pornographie adulte. Un clic sur toi sur Internet est dirigé vers un site de pornographie. Donc, ça marche bien, la pornographie. Donc, si t'es un sataniste, puis tu veux faire des films pornographique pour faire de l'argent, tu vas faire des films de pornographie adulte. Parce que ça se vend bien. Non seulement ça se vend bien, mais en plus de ça, c'est pas illégal.
Ben,
tu comprends?
C'est ça.
Donc, L'idée de dire « Ah, les satanistes, ils font de la pornographie infantile », ça, là, c'est pour diaboliser ton ennemi. Là. Il n'y a aucune vérité factuelle derrière ça. C'est simplement une espèce de rumeur qui circule, qu'on utilise pour diaboliser l'autre. Mais ça repose sur absolument rien. Les enquêtes menées tant aux États-Unis par le FBI, il y a une grande enquête qui a été menée en Angleterre par le Scotland Yard, n'ont jamais démontré un quelconque lien entre, de façon générale, les adeptes du satanisme et la pornographie infantile. C'est deux choses complètement différentes. Mais ça se peut bien qu'il y ait des gens qui font du satanisme et qui s'intéressent à la pornographie infantile, mais il y a des gens de la population en général qui, on le voit malheureusement chaque semaine, qui se font arrêter pour détention de matériel pornographique infantile, puis tout ça, puis ils sont pas forcément des satanistes. Donc, on va en trouver partout, mais de croire que fondamentalement dans l'équation sataniste et pornographie infantile, ça c'est tout à fait faux.
On a remis les points sur les i.
Oui, c'est ça. Donc, ça a été mon petit moment éditorial ici. Mais tu vas voir, on va se faire une émission sur cette peur satanique. C'est fascinant. Et d'une certaine façon, on voit, c'est un phénomène qui a marqué la fin des années 80, le début des années 90, qui a donné d'ailleurs lieu aux États-Unis au procès le plus long et le plus coûteux de l'histoire des États-Unis. Et c'est un phénomène, quand on regarde les prémices de ces éléments-là, c'est un phénomène qu'on voit qui est un peu cyclique. Dans les années 80, ça a été la peur du satanisme. Dans les années 2000, ça a été autre chose. Mais cette soudaine rumeur, cette espèce de psychose collective qui va se développer de manière là incontrôlable, ben c'est malheureusement ça se produit de manière cyclique et c'est, par exemple sous l'administration Trump, en cette idée là de on veut nous voler nos droits, puis là on va aller attaquer le Congrès avec c'est fou raide, là. C'est complètement fou raide. Et que des gens aient pu croire ça, ben, malheureusement, on le voit, ils ont été des centaines, des milliers à travers les États-Unis à croire ces discours-là, qui ne reposaient sur absolument rien. Ben, ça a été un peu la même chose avec la peur du satanisme dans les années 80. Mais on reviendra là-dessus, tu vois, c'est... Pour une étude sociologique, là, c'est fascinant. Les sociologues planchent encore sur cette époque-là, sur ces événements-là, et c'est tout à fait fascinant.
Super. Avant de faire la pause, on a une bande-annonce d'un documentaire Netflix que j'ai adoré, le Night Stalker, le traqueur de la nuit. C'était bien Richard Ramirez, hein?
Oui, t'as tout à fait raison. C'est un excellent documentaire en 4 parties d'une heure. C'est un documentaire de 2021 qui est disponible, comme tu le dis, sur Netflix. Version originale, c'est The Hunt for a Serial Killer. En français, c'est le traqueur de la nuit. La bande-annonce qu'on va faire entendre, elle est en anglais, mais il faut savoir que le documentaire, il est en français, il est accessible en français. Et ça nous parle de Richard Ramirez, et on en a parlé un peu la semaine dernière. Richard Ramirez, dont les crimes n'étaient pas considérés comme des crimes occultes, hein, la motivation des crimes de Ramirez était, c'était un toxicomane. Sa première motivation était d'entrer chez les gens, de tuer, hein, sûrement qu'il prenait un plaisir à tuer des gens. Il entrait chez les gens, tuait les gens et les dévalisait dans le but de satisfaire ses besoins en drogue. Et durant ses crimes, là, il va ritualiser ses crimes, hein. Il va faire des pentacles sur les murs. Il va dessiner également des pentacles sur certaines de ses victimes. Il va demander à ses victimes, hein, je te tue ou tu dis que tu aimes Satan, que tu rends gloire à Satan. Il va dire ça notamment à une femme. Elle va dire oui, j'aime Satan, et il va la laisser en vie parce qu'elle a dit ça. Et Ramirez sera éventuellement condamné à mort pour les crimes qu'il a commis. Il va décéder en 2013 à la prison d'un cancer, donc il passera pas à la chambre à gaz, certains diront malheureusement.
Oui.
Mais quoi qu'il en soit, Ramirez a donné très peu d'entrevues après sa condamnation. Et dans les quelques entrevues qu'il a données, je ne sais pas encore de quelle était sa pensée à la fin de sa vie, mais c'est sûr que si on remonte au milieu des 87-88 à peu près, lorsqu'il y a ce procès et qu'il va donner quelques entrevues à la télévision, il est clair qu'il est un sataniste comme dans l'âme. Hein, et il fait pas partie d'un groupe ou d'une association. Il ne commet pas ses crimes en disant « c'est le diable qui me le dit, de commettre ses crimes, mais quand on écoute son discours, il est clair qu'il croit que le monde est un monde dualiste entre le bien et le mal, et lui croit être l'incarnation du mal, et à quelques reprises dans des entrevues, il dit « J'ai senti à plusieurs reprises le pouvoir de cette entité diabolique qui m'habitait. » Donc, il a cette vision-là. Il adhère à cette croyance d'une force obscure qui peut l'habiter lorsqu'il commet ses crimes. Il est donc un sataniste dans l'âme, sans que ses crimes soient pour autant des crimes à caractère satanique, mais il va quand même ritualiser ses crimes à certaines occasions. Donc, c'est un excellent documentaire. C'est intéressant parce que on revoit dans cette série documentaire les policiers qui ont enquêté sur l'affaire Ramirez,
oui,
que j'ai eu la chance de rencontrer parce que j'ai fait dans la série Crimes occultes, j'ai fait un volet sur Ramirez. Donc, j'ai rencontré ces policiers qui étaient à la retraite, qui me racontaient comment ils avaient traqué le chasseur de la nuit. Donc, c'est un excellent documentaire, Night Stalker, The Hunt for a Serial Killer, en français, Le Traqueur de la nuit. Voici la bande-annonce.
On se laisse là-dessus, de retour dans quelques minutes. On summer streets and the pavements are burning, I say. In the 1980s, we were proud of the city. LA was glamorous, but if you went around to the other side, LA could be a very dark place. I was on the freeway, and here comes somebody speeding, and all of a sudden he just swerves around my car. It's like he's right there, like a moment stop. And he has this horrible big grin, and he's missing all these teeth. He just stared at me like a killer clown.
You got us a serial killer.
There was no doubt about it. This was a pretty sick individual.
The so-called Night Stalker who has terrorized California.
The same man is suspected in 6 to 8 murders and 25 to 30 attacks.
He's someone that will go into a home at night and will kill.
I woke up to a very loud noise, to which I responded, John, and immediately I knew it wasn't John, but something was there.
There was no pattern. Anyone could be a victim. He went after old people, young people, men, women.
It's unheard of. We've never encountered anybody like that in criminal history.
Everybody was talking about it.
I'm scared. I think everybody else is scared.
It's a cruel.
Pressure was on to stop the madman that was doing all this.
So we start trying to piece all this puzzle together.
We were in for a roller coaster ride.
It's the only time in my entire life that I slept with a gun.
There's pentagrams on walls.
It just keeps getting creepier.
He waited until he saw the fear in her eyes, then he shot her.
What causes a person to do what he does?
I said, I won't scream. I swear upon God. And he said, swear upon Satan.
You could sense it. There's evil in that man.
It's a cruel, cruel summer.
Radio X-Files. Here we go. Execute program. Avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De faire 42 minutes de retour dans Radio X-Files. Et ce soir, Christian, le sujet du jour, les tueurs en série, les crimes. Et on parle d'Alan Menzies.
Et notre histoire nous renvoie encore une fois en Écosse. Vous nous avez les Écossais ce soir.
C'est un spécial Grande-Bretagne.
Oui, voilà. Donc, notre histoire a pour théâtre une petite ville d'à peu près 4000 âmes qui s'appelle Fold House. Ça se trouve en Écosse. Ça se situe à mi-chemin entre Glasgow et Édimbourg. Et on est en décembre 2002. Donc, on a un des personnages de notre histoire s'appelle Thomas McKendrick. C'est un jeune homme de 21 ans. Le matin du 11 décembre 2002, donc il se lève. Il est au chômage depuis quelques jours. C'est un bon garçon. Mais en même temps, c'est un jeune homme qui est excessivement introverti. Il parle peu, a pratiquement aucun ami. Donc, ce matin-là, il prend son déjeuner, parle avec sa mère. Il lui dit qu'il a peut-être l'intention éventuellement d'aller soit à à Glasgow ou à Édimbourg pour essayer de se trouver du travail parce qu'il n'en trouve pas à Full House. Et donc, la conversation tourne autour de ça. Il dit qu'il va aller nourrir, il a derrière la maison une espèce de petit hangar, une espèce de petit hangar dans lequel il y a des furets. Il dit qu'il va aller nourrir ses furets et ensuite il dit à sa mère qu'il va peut-être aller traîner un peu du côté des carrières au, qui sont au, situées au sud de la ville, il va peut-être faire un peu de chasse ou des trucs comme ça. Et puis il embrasse sa mère et il quitte la maison. À ce moment-là, sa mère, Sandra French, l'ignore encore, mais c'est la dernière fois qu'elle voit son fils.
Okay.
Donc la journée s'écoule, elle n'a pas de nouvelles de Thomas et... le soir, lorsqu'elle rentre à la maison, Thomas n'est pas là. Donc, elle laisse passer la soirée. C'est quand même un jeune homme de 21 ans, donc c'est un adulte. Elle est inquiète. Ce n'est pas son genre de ne pas entrer, voire même de découcher, parce qu'il ne rentrera pas à la maison de toute la nuit. Donc, le lendemain, lorsqu'elle se lève, va dans la chambre de Thomas. Son lit n'est pas défait. Il n'est pas entré durant la journée, durant la nuit, rien de ça. Donc, elle s'inquiète, mais encore une fois, comme il parlait de son intention éventuellement d'aller ou à Glasgow, à Édimbourg, pour se trouver du travail, elle dit, puis c'est un jeune garçon qui a des comportements très introvertis, ben peut-être que finalement il est allé aux deux grandes villes pour essayer de se trouver de l'emploi, puis il l'a pas informé. Ça lui semble, il faut le dire, ça lui semble très invraisemblable, mais elle se dit qu'elle doit laisser passer puisque Thomas a 21 ans, puis il a droit quand même un peu à sa liberté.
C'est ça.
Donc toute la journée passe, toujours sans nouvelles. Et curieusement, bon, elle appelle bien sûr ses amis, et ses amis, ça se limite à un ami, un type qui s'appelle Alan Menzies, qui est un jeune homme de 22 ans, qui vit à quelques rues de là. C'est le seul ami qu'elle connaît à son fils. Et ce Alan Menzies est lui aussi un jeune garçon un peu troublant. Il est lui aussi très introverti. Et c'est peut-être pourquoi il s'est lié d'amitié avec Thomas McKendrick, parce que les deux jeunes garçons se ressemblent étrangement sur le plan psychologique. Ils parlent peu, sont introvertis, partagent les mêmes passions pour les jeux vidéo, les films d'horreur. Donc, elle appelle Alan Menzies, qui lui dit que effectivement, la veille, dans l'avant-midi, Thomas McKendrick est venu le voir. Ils ont parlé un peu et Thomas est parti. Il mentionne qu'il n'a pas donné d'indication qu'il allait ou à Glasgow ou à Édimbourg. Donc, il ne l'a pas revu depuis et il ignore où il peut être. Curieusement, ce même jour-là, un peu en fin d'après-midi, au moment où la mère de Thomas McKendrick, Sandra French, sort d'une épicerie, elle tombe nez à nez avec Alan Menzies. Et Alan Menzies lui dit, écoute, c'est quand même curieux, là. Elle est inquiète, son fils est disparu depuis pratiquement 48 heures. La dernière personne apparemment à avoir vu Thomas, c'est Alan Menzies. Et au moment où elle sort du centre d'achat, en fait c'est un supermarché, elle tombe nez à nez avec Menzies qui lui se prépare à rentrer dans le centre, dans le supermarché.
Qui a l'air à peine de quelqu'un qui la suivait. Là.
Mais il lui pose une question, écoute, invraisemblable. Il lui dit, bonjour Madame French. Il dit, en passant, il dit, est-ce que vous savez comment on peut faire disparaître des traces de sang sur une moquette?
OK.
Écoute, la question est quasi invraisemblable. Donc, sans lui répondre, ils échangent. Elle lui demande encore une fois s'il a vu Thomas. Il dit non. Il est passé hier à la maison. Je ne l'ai pas revu depuis. Et puis, bon, voilà, la conversation s'arrête là. Le soir même, comme le jeune McKendrick ne revient pas à la maison, la mère, de plus en plus inquiète, décide d'appeler la police de West Lothian, qui s'occupe de tout le secteur. Donc, elle dit, mon fils est disparu, ça fait maintenant plus de 36 heures, je suis inquiète, c'est un jeune garçon introverti, je crois qu'il n'aurait pas fugué, il n'y a pas de raison d'avoir fugué, et je doute qu'il soit parti sans me donner des nouvelles. Donc, elle explique l'histoire de, elle a pensé au départ qu'il pouvait aller chercher du travail ou à Glasgow et Édimbourg, mais là, maintenant, elle n'y croit plus. Donc, les policiers ne savent pas trop quoi faire. Ils commencent par ratisser les bois, vont visiter la carrière, puisque Thomas a dit que peut-être il irait du côté de la carrière faire de la chasse. Peut-être est-il tombé, peut-être s'est-il blessé. Mais on ratisse tout ça, on ne trouve absolument rien. Et là, les policiers décident d'aller voir, bien sûr, la dernière personne à avoir vu vivant Thomas McKendrick, et qui est bien sûr Alan Menzies. Donc, il se présente chez Menzies, et là, Menzies leur répète que oui, effectivement, la veille, Thomas est venu le voir.
Il est allé répondre à la porte avec sa bouteille de Clorox.
C'est ça, donc. Il venait à la maison, on a échangé, et puis bon, ben, je ne l'ai pas revu depuis. Les policiers ont une double raison de s'intéresser à Alan Menzies, parce que, bien sûr, ils sont au courant de l'anecdote de « est-ce qu'il y a du Clorox pour nettoyer le tapis
bon, »
qu'il a
ben
posé
oui.
à la mère, hein, parce qu'elle a raconté ça aux policiers. Elle dit, c'est quand même curieux qu'Alan Menzies m'a posé cette question-là. Et les policiers savent, en fouillant dans leur dossier, que Alan Menzies n'est pas inconnu des services de police.
Aha.
Quand il avait 14 ans, là, il est âgé de 22 ans, mais quand il avait 14 ans, je l'ai mentionné, c'est un petit garçon qui a des problèmes de comportement, qui est très introverti, et ça fait de lui un peu la tête de turc de l'école. Et à un moment donné, quand il avait 14 ans, il a été malmené par la petite brute de l'école, et le lendemain, il est revenu avec un couteau et il a poignardé le garçon en question.
Oh!
Ce qui lui a valu, et là, il s'est enfui chez lui, a pris des pilules pour se suicider. Ça n'a pas fonctionné. On l'a amené à l'hôpital, on lui a fait un lavement d'estomac, tout ça. Et puis, il s'est retrouvé devant le tribunal de la jeunesse qui l'a condamné à une détention de 3 ans dans un centre pour jeunes. Quand il a été libéré, il est retourné à Fold House, où il habite à ce moment-là, au moment où les faits que je te raconte, où il habite à ce moment-là avec son père. Il habite seul avec son père parce que les parents sont divorcés. Il a vécu un temps chez sa mère, mais il la trouvait trop contraignante, donc il a décidé d'emménager avec son père. Et au moment où Thomas McKendrick disparaît, ben il vit avec son père à quelques rues de la maison des McKendrick. Il raconte cette histoire-là. Comme je t'ai mentionné, les policiers connaissent l'anecdote de l'histoire du nettoyant à tapis et ils sont au courant également que c'est un petit garçon qui est maintenant un adulte qui peut se révéler très agressif. Et là, en fouillant dans ces choses, il découvre que Alan Menzies a également une passion pour les vampires. Donc, on fouille dans ses trucs. Il a une série de romans qui parlent de vampires. Il a toute la collection de chroniques des vampires de Anne Rice. Il a également une vidéo cassette du Queen of the Damned, la reine des damnés. Et il raconte aux policiers, il dit, ah oui, tu, moi, les vampires, j'aime ça. Il dit, j'ai Queen of the Damned. Il dit, j'ai regardé ça plus d'une centaine de fois. Donc, t'es tabarnouche, vraiment, t'aimes ça. Et en fouillant dans ces choses, il trouve un livre, un des romans de Anne Rice qui s'appelle Blood and Gold. Et sur la page de garde, il trouve une espèce de poème. Et je l'ai pris en note ici. Il a écrit, j'ai choisi de devenir un vampire. Le sang est beaucoup trop précieux pour être gaspillé sur des humains. Le sang, c'est la vie. J'ai bu le sang. Et il doit être mien pour les horreurs que j'ai vues. Le maître viendra vers moi. Il m'a juré de faire de moi un immortel et je ferai ce qu'il exigera. Et c'est signé le garçon vagabond Vamp.
Donc, les policiers
sont un peu intrigués par cette prose. Donc, ils demandent à Menzies si c'est lui qui a écrit ça. Il reconnaît que c'est lui qui a en effet écrit ces quelques mots. Mais lorsque les policiers ramènent la conversation sur Thomas McKendrick, il dit ne rien savoir. Donc, les policiers quittent. Et dès que les policiers ont quitté la maison, Alan Menzies se rend dans la salle de bain, prend toutes les pilules qu'il y a dans la pharmacie et les prend toutes. Et là, bon, tentative de suicide. Son père, au moment de son retour au travail, trouve Alan Menzies inconscient, l'envoie à l'hôpital, ce qui lui sauve la vie. Mais lorsqu'il reprend conscience, il reproche à son père de l'avoir amené à l'hôpital et de lui avoir sauvé la vie parce qu'il était condamné. Il était persuadé que s'il était mort, les portes de l'enfer se seraient ouvertes pour l'accueillir. Et c'est son plus grand souhait, aller en enfer, côtoyer les entités infernales. Et l'entretemps, alors que Menzies est toujours sur son lit d'hôpital, les policiers retrouvent dans un boisé tout près de l'étang. Il retrouve le corps de Thomas McKendrick.
Okay.
Le jeune homme a été enterré sommairement. Il y a encore un bras qui dépasse du sol. Et là, ben, on sort le corps. Il est nu. Il a été dissimulé dans position fœtale. Il a eu la gorge tranchée. Alors que Menzies est toujours à l'hôpital, les policiers retournent le voir en se disant, ben, on va y reposer de nouvelles questions. Et bien sûr, les policiers interprètent sa tentative de suicide comme presque un aveu qu'il a quelque chose à se reprocher. Et c'est vrai que Menzies est un garçon particulièrement étonnant. D'abord, dans un premier temps, comme je l'ai mentionné, c'est un marginal, il est introverti, il vit seul avec son père dans cette grande maison. Il est obsédé, comme l'était également Thomas McKendrick, par les jeux vidéo et les films d'horreur. Mais les policiers, en faisant une enquête de voisinage, découvrent également d'autres aspects plutôt sombres de Alan Menzies. Notamment, lorsqu'il était adolescent, il a commencé à s'intéresser à l'occultisme, aux vampires, etc. Et il a développé une véritable passion pour le film Léon de Luc Besson. Donc, film qui est sorti en 1994, traduit en anglais, présenté en Grande-Bretagne. Et dans ce film Léon, l'acteur Jean Reno incarne une espèce de tueur à gages qui va orchestrer une vengeance sanglante. Et Alan Menzies, c'est comme associé à ce personnage, allant jusqu'à demander aux gens qui étaient autour de lui de ne plus l'appeler Alan, mais de l'appeler Léon, du nom du héros du film de Besson.
Ah, ça allait loin.
Et là ensuite, il a commencé à s'intéresser au macabre. Il collectionnait des articles de journaux, notamment une histoire où un jeune homme de 17 ans avait assassiné une vieille dame pour boire son sang. Donc, il a collectionné tout, et ça s'est passé en Angleterre une autre fois.
Oh,
il a collectionné tous les articles de journaux de cette histoire-là. Il était fasciné par ça. Et là, à partir de ce moment-là, son discours ne tourne qu'autour de ça, du macabre et du surnaturel qui est associé à tout ça. Et en 2002, mais bien sûr, il n'a à peu près qu'un seul ami, et son ami, c'est Thomas McKendrick. En 2002, Thomas McKendrick l'initie au film La Reine des Damnés, qui est le deuxième film adapté de la saga de la Chronique des Vampires. Il lui dit, est-ce que tu as vu ce film-là? Il amène la vidéocassette chez lui, et là, on est à l'été de 2002, et McKendrick explique un peu l'histoire des vampires, tout ça, et ça accroche Alan Menzies. Merci, bonsoir, Léon. Maintenant, il n'a plus qu'une obsession, les vampires. Et là, peu à peu, il se met à s'identifier au personnage principal du film La Reine des Damnés. Bon, l'histoire, c'est le vampire Lestat qui s'est recyclé en chanteur rock et puis sa musique va réveiller la reine des vampires qui s'appelle Akasha, qui est incarnée par la chanteuse Alaya. Et il va y avoir une espèce de combat apocalyptique entre les deux. Et là, Alan Menzies se met à fantasmer à la fois psychologiquement, sexuellement sur le personnage d'Akasha. Il regarde du soir au matin, il ne fait que regarder La Reine des Damnés. Il a également la bande audio du film qu'il écoute en boucle. Il est obsédé par ça. Et ce qui nous amène au matin du 11 décembre 2002. Thomas McKendrick rend visite à son ami Alan Menzies. McKendrick rend visite à Menzies. Et là, Menzies lui dit, « Ah, je viens de voir encore une fois pour la 120e fois. J'ai écouté ce matin le film La Reine des Damnés. » Il parle de Akasha. Il lui dit qu'elle le visite la nuit, qu'elle lui parle. Il sent sa présence dans son lit, se masturbe en imaginant la reine des vampires. Il est obsédé par ça. Et là, ce Thomas McKendrick lui faire quelques commentaires un peu négatifs en lui disant, réveille, reviens à la réalité, c'est des fantasmes, t'es en train de perdre la boule.
Ce serait le fun qu'on ait des passions communes puis qu'on fasse autre chose.
Voilà, et à ce moment-là, il va dire à Menzies le mot épouvantable, il va dire que son héroïne, c'est une black bitches, hein, une salope noire. Et ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Alan Menzies va raconter à son procès qu'à ce moment-là, Akasha, la reine des vampires, lui est apparue et elle lui a fait un geste pour signifier que Thomas McKendrick devait disparaître. Donc, il s'est emparé d'un couteau qu'il avait sous la main, s'est jeté sur McKendrick et il a commencé à le poignarder au visage et au torse. McKendrick a réussi à échapper à cette prise, a tenté de fuir, mais comme Menzies lui bloquait la route vers la porte, McKendrick a décidé de monter au deuxième où il s'est enfermé dans la chambre de Alan Menzies. Menzies, dans sa colère, s'est emparé aussi d'un marteau. Il est grimpé dans sa chambre, a forcé la porte. Tu t'imagines à ce moment-là que Thomas McKendrick saigne abondamment. Mm. Il a été poignardé à la gorge, au thorax. Menzies rentre dans la pièce, se jette sur McKendrick et continue de le frapper avec le marteau. Les coups sont tellement violents que des morceaux de cervelle éclaboussent le plancher et les murs. Et finalement, bien sûr, Thomas McKendrick décède. À ce moment-là, Alan Menzies redescend au salon, s'empare d'un verre de whisky, remonte dans sa chambre, tranche la gorge de McKendrick, remplit deux fois son verre de sang et il le boit. Ensuite, il pousse même le macabre à prendre un morceau de la cervelle de Thomas McKendrick et à le manger. Il va dans le miroir de la salle de bain et regarde ses dents pour s'assurer qu'elles sont bien maculées du sang de sa victime. Et là, Menzies, au moment où il va raconter cette histoire-là, il la raconte en détail aux policiers qui sont venus l'interroger. Hein, il a accepté de faire des aveux en échange qu'il soit incarcéré, non pas dans un pénitencier ordinaire, mais dans une prison pour les gens qui souffrent de maladies mentales. Mmh. Les policiers lui disent que ce n'est pas de leur ressort de décider dans quelle institution carcérale il sera enfermé, mais que c'est mieux pour lui qu'il fasse des aveux. Et c'est là, donc, que Menzies raconte en détail ce crime tout à fait monstrueux. Et là, il raconte qu'après avoir tué Thomas McKendrick, il a pris son corps, il l'a mis dans une poubelle sur roue qui était derrière la maison et s'est empressé de nettoyer dans la maison tout le sang qu'il y avait. Quand son père est arrivé de travailler, il a constaté qu'il y avait à gauche, à droite, des gouttelettes de sang. Et bien sûr, Manzi s'était enroulé la main dans un torchon en disant à son père, « Ah, je me suis coupé sur une boîte de conserve. » Et la nuit venue, il a pris la poubelle sur roue, a traversé littéralement le village de Fold House pour aller enterrer le corps de McKendrick de l'autre côté du village. Il est revenu à la maison et puis merci, bonsoir, on n'en parle plus. Donc, à partir du moment où les policiers ont ses aveux, il va y avoir le procès va suivre, bien évidemment. Le procès va s'ouvrir le 30 septembre 2003. Et entre le moment de son arrestation, croyez-le ou non, entre le moment de son arrestation et le moment du procès, Alan Menzies continue d'envoyer des lettres chez lui à son père en disant à son père, fais-les suivre à Akasha. Vraiment, il imagine que ce personnage-là, il est bien réel. Et il écrit dans ses lettres des trucs. Écoute, il dit, j'ai bu du sang, les humains sont des animaux, je vais continuer de m'abreuver de leur sang, j'ai tué pour toi et je continuerai de tuer pour toi. Donc, éventuellement, on va faire subir une vérification psychologique à Alan Menzies. Les psychologues qui vont se pencher sur son cas vont tous conclure que l'individu est un être méprisable, manipulateur et psychopathe. Le juge va le condamner à la prison à perpétuité. Et au moment de la sentence, le juge va déclarer à Alan Menzies, il dit « Trois psychologues vous ont diagnostiqué comme psychopathe. Selon moi, vous êtes malsain, violent et extrêmement dangereux. Vous n'êtes pas apte à vivre en liberté. Vous avez soumis Thomas McKendrick à une agression sauvage et sans pitié. Vous n'éprouvez aucun remords. »
Wow, je vois le temps filer. Christian, dans l'article de The Guardian que j'ai devant moi, on dit qu'il l'a poignardé 40 à 42 reprises. Ouais, et 40... tout ça, pourquoi?
Pour boire son sang et éventuellement être reconnu pour devenir un vampire et rejoindre la communauté des vampires dont il s'était imaginé. Éventuellement, simplement te dire, parce que Will Tenfield, je le vois aussi, il y avait plein de choses à dire, mais Alan Menzies a été conduit à la prison de Short dans le Larkinshire. Il n'a pas été condamné, il n'a pas été envoyé dans une prison pour malades mentaux, mais dans une prison, un centre carcéral à sécurité maximum. Et dans la nuit du 14 au 15 novembre 2004, il s'est pendu dans sa cellule. Les gardiens n'ont trouvé son corps qu'au petit matin. Alors finalement, Alan Menzies aura rejoint cet enfer qui l'attendait avec autant d'impatience.
Tout ça pour ça, en réalité, hein, c'était quelqu'un qui était comme un suicidaire multirécidiviste là, en tentative de suicide et pour finalement arriver à ce résultat-là, c'est tellement injuste pour les victimes.
Écoute, j'ai devant moi là le rapport de police là, qui a été signé par le policier qui a interrogé Alan Menzies. Le policier s'appelle Robert Lowe. Et écoute, il écrit là-dedans, Menzies fait la confession, il dit « Je sais que je vais écoper de 20 ou 25 ans pour cela, pour ce que j'ai fait à Thomas McKendrick avec le marteau et le couteau Bowie. Mais j'ai eu son âme. » J'ai bu son sang et j'ai mangé un morceau de sa cervelle. Il y avait du sang partout et j'ai enterré son corps dans les bois.
Ah!
écoute, ça dépasse l'entendement. Et moi, quand je voyais les... J'ai vu les photos du corps de Thomas McHenry, c'est épouvantable. Rien que te donner ce détail-là, c'était, la tête est devenue méconnaissable. Il a tellement frappé avec le marteau, puis bon, il, bien sûr, lui a tranché la gorge pour boire son sang. Comme tu dis, 43 fois qu'on a poignardé, minimalement 43 fois au thorax et au visage qu'il a poignardé Thomas McHenry.
Cet homme n'avait pas d'âme, Christian. C'est officiellement le record de notre émission.
On l'a défoncé.
Oui, à 20h03. Mais merci, c'est extrêmement pertinent. Je vais m'arranger avec les pauses en attendant que Jean-Francis s'installe. Bonne fin de semaine, ça a été un plaisir et bonne nuit aux auditeurs sur ce détail très graphique, mais toujours un plaisir de travailler avec toi. On se retrouve lundi. Demain, ce sera les meilleurs moments des émissions de cette semaine à Radio X-Files.
Parfait. Bon week-end à tous. Ciao.
À toi aussi. Bye-bye.